Donc, je vais, sans plus attendre, donner la parole à Evelyne Sebag, qui est infirmière et qui intervient comme co-thérapeute donc, à la consultation transculturelle de la maison de Solène, la maison des adolescents de Cochin.
Donc, je suis infirmière diplômée d'État et j'ai fait un certificat d'infirmière clinicienne conseillère de santé. Mon parcours professionnel s'est déroulé pratiquement tout le temps en pédiatrie et quand j'ai su que la maison des adolescents allait s'ouvrir en 2004, j'étais très contente qu'il y ait des structures qui se fassent pour les adolescents. Et le personnel soignant a été tous formés dès l'ouverture pendant un mois et demi avec toutes les personnes qui parlaient de l'adolescence dans toute la France, hein, que ce soit Pomereau, Fuseau, enfin tous les gens qui avaient un rapport avec, même Marie-Rose Moreau. Et on devait partir en stage. Et mon stage a été à Vicennes et c'était justement à l'ouverture de la Casita avec inauguration. Et là, j'entends parler de ces consultations transculturelles que je ne connaissais absolument pas. Vaguement, j'avais entendu parler de Toby Nathan, des choses comme ça, mais pas vraiment. Puis j'entends parler de ça et je dis, mais est-ce que je pourrais y assister? Oh non, non, ça ne sera pas possible. Alors du coup, bon... C'est vrai que pendant quelques années, je me suis dit, oh là là, la cerise sur le gâteau, c'est que ce soit Marie-Rose Moreau qui reprenne, puisque le docteur Ruffo devait partir sur Marseille au bout de 3 ans. Et je disais, moi, mon rêve le plus fou, ce serait que Marie-Rose Moreau puisse reprendre cette structure et puis qu'une consultation transculturelle se fasse. Et puis cette façon différente de soigner, qui n'était pas une relation duelle, mais plutôt une relation avec un groupe multidisciplinaire et culturel au bagage varié, qu'il soit psychanalytique, psychiatrique, anthropologique, linguistique, m'intéressait beaucoup. Donc cette consultation se met en place à la maison des ados en 2008, à la maison Solène sur Cochin. Et à ce moment-là, mon histoire de vie, ma formation, mon expérience professionnelle m'ont donné l'opportunité d'y accéder et d'y participer, et ce, en aucune base, en fin de compte, avant. J'avais aucune formation spécifique, juste un grand intérêt par rapport au voyage, où quand j'ai voyagé vraiment très longue durée, donc j'ai pu aussi m'approcher, passer beaucoup de temps, que ce soit dans des tribus, des choses comme ça. J'ai beaucoup voyagé et j'ai trouvé vraiment toujours un grand intérêt à découvrir, à partager d'autres cultures, sans pour autant me laisser un peu exotiser, entre guillemets, par une différence ou dans une certaine position. Je suis fille de migrants d'origine marocaine et il n'y a pas très longtemps, je pense que ça doit être une dizaine d'années, on me demande de refaire mes papiers et à ce moment-là, je me rends compte que je n'étais pas née française. Bon, quelque part, ça m'a même fait peur, hein, parce que c'était l'époque où on expulsait assez facilement. Je dis, quoi, je ne suis pas née française. On me dit, non, 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 il faut que vous ameniez votre grand papier de Nantes. Vous n'êtes pas née française. Alors, je demande à mes parents, ils me disent, oui, oui, je te l'ai donné, c'est dans tes affaires. Et j'apprends que jusqu'à l'âge de 3 ans, en fin de compte, j'étais marocaine. Donc, je suis née sur le sol français, marocaine jusqu'à l'âge de 3 ans. Et à 3 ans, j'ai donc été naturalisée. Alors je me sentais en effet un peu différente, métisse, je voulais m'appuyer sur le parcours de mes parents qui eux avaient beaucoup de mal en fin de compte à transmettre et à raconter leur propre histoire. Bon, ils ont un peu essayé d'effacer leur propre identité pour qu'on soit mieux intégrés. Ils avaient l'impression que s'ils ne parlaient pas trop la langue, si on ne l'apprenait pas, si on restait français entre guillemets, puisque eux parlaient le français au Maroc, j'allais certainement mieux m'intégrer, mais il y avait toujours ce traumatisme de la Shoah, même si on n'a pas été touché au Maroc, je crois qu'il a été pire, c'est un peu comme si on avait été enfant caché, c'est le livre un peu de Marion Feldman qui est intervenue hier, où ces enfants cachés, en fin de compte, ils ont une crainte qui a été peut-être encore plus que cet exode pour partir dans les camps de... Enfin, pas plus, mais en tout cas, identique que celui de partir au camp de concentration. Et mon père, toute sa vie, a eu cette terreur qu'il a encore, même à 91 ans, et qui nous a quelquefois un petit peu transmise. Et en fin de compte, bon, ils m'ont quand même transmis des choses, hein, par la cuisine, par les chansons, par une langue qui parlait entre eux et dont j'avais la curiosité d'apprendre. Mais cette langue, en fin de compte, ils ne voulaient pas. Mais comme j'étais très curieuse, eh bien, j'arrivais à comprendre l'arabe, mais le parler, ça a été impossible, jusqu'à ce que, 20 ans plus tard, je décide de faire un cours d'arabe parce que j'en avais besoin pour ma profession d'infirmière en réanimation. On recevait beaucoup d'enfants isolés du Maghreb pour venir se faire soigner plusieurs mois. Et tout le monde était d'accord pour apprendre l'arabe. Donc, du chef aux deux services, aux infirmières, aux aides-soignantes, on a tous fait un cours. Et comme je parlais hébreu, en fin de compte, il y avait quand même beaucoup de similitudes et beaucoup d'équivoques. Et des fois, en cours, on me disait « Evelyne, là, c'est de l'hébreu, s'il te plaît. » Le prof d'arabe n'aimait pas trop, hein. Donc j'ai pu constater en fin de compte que j'avais beaucoup de manques dans cette transmission de ma propre culture et cela m'a donné bien sûr l'envie d'en connaître un petit peu plus et avoir une meilleure vision du monde et celle des familles que nous soignons et que nous suivons à la maison des adolescents. De fait, bon, j'ai beaucoup lu sur les différentes religions, les cultures, les coutumes, les traditions. Mais en fin de compte, je me suis assez généralisée. Et là, il y a très peu de temps, je dirais même que quelques mois, alors que ça fait 2 ans et demi que je suis dans la consultation transculturelle, je m'intéresse un peu plus à ma propre culture. Je commence à lire un peu plus de livres. Et maintenant, je me rappelle qu'enfant, je parlais d'abord couramment hébreu, que j'ai été étudiée pendant au moins 6 ans le Talmud Torah. Et pourquoi j'ai oublié tous ces contes qu'on me racontait, que j'étais fascinée? Pourquoi je les ai oubliés? Pourquoi je n'arrive pas à les retransmettre, justement, comme je vois tous les autres thérapeutes, retransmettre leur propre culture à travers des contes, à travers des chansons, à travers des récits? Donc, ben, je commence maintenant à m'y intéresser un petit peu plus. Alors, je voulais dire qu'à la consultation de la Maison des adolescents, on a 3 consultations. Une d'un grand groupe de 15 co-thérapeutes, et 2 petits groupes, une l'après-midi avec Jonathan Aovi comme thérapeute principal et Tamès qui est intervenu hier, qui est psychologue au Luxembourg, Awa qui est psychologue et qui intervient, et une stagiaire psychologue. Il ne faut pas oublier qu'il faut à chaque consultation tout écrire mot à mot. Donc les stagiaires ou moi-même, quelquefois, nous devons prendre des notes pendant la consultation. Bon, si on a un travail à faire, on ne fait pas d'enregistrement normalement, quelquefois dans la grande consultation, mais pas dans la petite. Mais mot à mot, on essaye quand même de reprendre toutes les notes, les taper, les dactylographier et les ranger. Donc j'ai vraiment un gros travail, moi, en tant qu'infirmière, d'abord de voir que les dossiers soient à jour. Un gros travail en amont avec les institutions, parce qu'en général, c'est des deuxièmes intentions, donc avec les CMP, avec les institutions qui nous envoient les patients. Et après, j'ai préparé bien sûr la salle, les jouets. Puis comme j'aime recevoir, parce que ça fait partie de ma personnalité, ben j'aime accueillir le groupe de co-thérapeutes. Donc ils ont droit tous les mardis au thé à la menthe, au café. Et puis si on peut, on a les petits biscuits orientaux. Mais ils ne grossissent pas, hein, c'est bon. Alors après, j'accueille bien sûr les familles, les accompagnants, le groupe de co-thérapeutes et les stagiaires. J'ai aussi... Bon, beaucoup de choses à faire autour, c'est-à-dire que bon, tout est informatisé, plus ou moins l'assistance publique, donc il faut remplir les PMSI, il faut remplir les demandes d'interprètes, donc il y a quand même beaucoup de travail, mais je ne fais pas que ça, en fin de compte, je ne suis pas infirmière transculturelle, hein, je suis une infirmière normale dans une salle de consultation, et j'ai ça comme mission en plus, comme d'autres collègues peuvent avoir, adoption internationale ou liaison avec la maternité, avec Nora. Alors, ces consultations de deuxième intention auxquelles je participe, elles sont proposées bien sûr à toutes les familles de migrantes et à leurs enfants lorsque la question culturelle se pose, que ce soit bien sûr à la demande des familles ou des professionnels pour comprendre une situation complexe, difficile et douloureuse. Ensemble, nous partageons donc des histoires. Puis la première fois où Jonathan m'a donné la parole, il m'a dit « Evelyne, tu veux bien chanter ?»« Oh, moi, aucun problème, une berceuse, ben, si tu veux, une berceuse. » Et en effet, dans cette consultation, eh ben on chante beaucoup, on s'échange des recettes de cuisine, et puis Awa nous présentera tout à l'heure un cas clinique. Hein. Bon, donc, ce que j'ai remarqué dans cette consultation, c'est qu'on ne soignait pas que le corps physique. Alors, moi, j'avais fait 30 ans de réanimation, et j'avais l'habitude, c'était plutôt le corps, mais bon, la tête m'intéressait toujours beaucoup, et je me rappelle que les réanimateurs ils disaient, quand tu auras fini ton cinéma, Evelyne, on pourra passer aux choses concrètes. Allez, on réanime et tout. Je disais, mais non, calme-le, il n'a peut-être pas besoin d'autant d'antalgiques ni autant de médicaments pour le sédater. Peut-être que c'est la voix qui va le calmer ou, je ne sais pas, faire un peu de sophrologie. Bon, je n'étais pas toujours comprise et heureusement que j'ai fait une formation de clinicienne conseillère de santé où tout d'un coup, j'avais des partenaires qui pensaient un peu comme moi. Alors, bon, j'ai appris des choses dans cette école, des concepts comme Rogers, la Rosas de Poletti et tout, mais je n'arrivais pas trop à le mettre en lien. Et en fin de compte, dans cette consultation, j'ai pu comprendre, par exemple, la Rosas de Poletti, c'était une femme infirmière qui était en Suisse et qui disait que tous les éléments, qu'ils soient sociaux, psychiques, relationnels, etc., quand un des éléments était perturbé, ben, toute la rosace était perturbée. Et c'est vrai que ça m'évoquait des choses, mais pas autant que depuis que je participe à cette consultation transculturelle. Bon, pour le monde de Lélie Niger, c'était aussi une femme qui était anthropologue, infirmière. Elle dit que les soins sont basés sur les connaissances des consultations transculturelle apprise par l'exemple de la structure sociale, la vision du monde, les valeurs, la langue et les contextes environnementaux de divers groupes culturels. Dans la consultation de groupe, on essaie d'expliciter l'implicite avec des images, des rêves, des contes. Ce que chacun de nous apporte, c'est un peu de lui-même, de son monde et de son voyage. Bon, les soins professionnels de l'infirmière comportent donc des modes basés sur une science et en partie qui s'apprennent. Elles respectent les soins traditionnels et non professionnels qui supportent la vie et la mort. Mais c'est vrai qu'il y a 30 ans, bon, moi je suis une vieille infirmière, je vais recevoir ma médaille dans très peu de temps de 40 ans de travail. Il y a 40 ans, moi je le pensais déjà, quoi. Mais il n'y avait personne en alliance pour faire quelque chose. Et de trouver cette consultation transculturelle, c'est finir sa carrière avec la cerise sur le gâteau, quoi. J'ai eu une carrière extraordinaire. Bon, je voudrais reprendre par rapport au groupe. Donc, les idées qui circulent dans le groupe sont quelquefois transmises dans un langage compréhensible pour chacun. Pour moi, c'était un petit peu difficile de rentrer dans le groupe en tant qu'infirmière, mais pas en tant que voyageuse. Parce qu'en tant que voyageuse, bien sûr, je me sentais très à l'aise. Hein. Ces gens très différents, je les avais côtoyés sur ma route, hein, avec toutes ces interprétations. Et puis, bon, j'aimais beaucoup tout ce regard différent, spécifique et... Et bon, même dans la consultation, moi, j'ai pas un regard, je dois avoir un regard transculturel avec l'habitude, mais j'ai surtout aussi un regard d'attention et de soignant. Et j'ai une parole de soignant, hein, plus dans le concret, dans la réalité de tous les jours. Et donc, mon travail, il consiste aussi à créer des liens. Et ça, c'est très important avec les familles, parce que quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien compris, ben, éventuellement, même au téléphone ou même avant la consultation, je vais réexpliquer le mécanisme de la consultation, qu'ils ne soient pas effrayés d'arriver, quoi, 15 personnes. Une fois, il y a eu un monsieur qui est arrivé du Bénin et sa femme ne lui avait pas dit. Et quand il est arrivé, il a voulu faire demi-tour. Hein, et il a fallu, pendant un long moment, parlementer et que Marie-Rose puisse parlementer pour que la personne puisse intégrer le groupe et y rester parce qu'elle n'était pas préparée. Et en général, ça peut être aussi mon travail. Mais bon, aussi, les gens qui nous ont envoyé ces patients, eux, sont au courant du dispositif où je leur réexplique et donc, en général, ça se passe bien. Bon, ce que je voudrais dire pour finir, c'est que l'infirmière, je pense que pour être une bonne infirmière, en effet, il faut passer déjà par les gestes techniques et que tout ça, c'est plus tellement important. Et après, on passe à une connaissance différente. Et je pense que pour être une bonne infirmière, ben, il faut avoir la connaissance des cultures des autres et qui permet de mieux soigner la famille, le patient et rend toute la dimension du soin dans le sens du caring, c'est-à-dire prendre soin. C'est John Watson en 85, c'était un modèle conceptuel, hein, c'était harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit, une personne, l'environnement, la santé et les soins. Une manière de rentrer en relation qui permet de favoriser son développement. Alors dans les consultations transculturelles, mon travail, par essence humaniste, est une vraie démarche soignante. C'est aussi une rencontre, un accompagnement qui tisse des liens de confiance avec les patients, la famille et le groupe de co-thérapeutes. Les théoriciennes de l'école du caring croient que les infirmières peuvent améliorer la qualité des soins aux personnes si elles s'ouvrent à des dimensions telles que la spiritualité, pour revenir à Watson, la culture, les ningers en 88, et si elles intègrent les connaissances reliées à toutes ces dimensions. Merci.